Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, 13h-14h, Jacques Pessis.
Dany Briand, il rend hommage à Charles Aznavour en reprenant à sa manière quelques-unes de ses chansons. Où est né ce projet ? Dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Et quand a-t-il découvert les chansons d'Aznavour ? À 12 ans, en assistant à l'un de ses concerts à l'Olympia. Des souvenirs parmi beaucoup d'autres que vous allez découvrir tout de suite dans ces clés d'une vie.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Bonjour Dany Briand.
Bonjour Jacques.
Et oui, cet artiste de taille, c'est Charles Aznavour, bien sûr, que vous avez eu le privilège de connaître, que j'ai eu le privilège de connaître, qui n'était pas un artiste d'une grande taille physique. D'ailleurs, Brel disait « Charles Aznavour est la seule personne que je connaisse qui puisse tenir debout dans une Rolls oui. ». Alors, vous avez réalisé un album dont on va parler avec Aznavour et des chansons d'Aznavour. C'était un rêve de toujours, je crois.
Moi, je suis un grand fan d'Aznavour, bien sûr, ça fait partie des derniers monstres sacrés de la chanson. J'ai jamais pensé que j'allais faire un album entier Aznavour, mais je l'ai fait parce que un ami dans une maison de 10 m'a dit « Pourquoi tu ferais pas un tribut à Charles ?» Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé.
Oui, et on va en parler encore longtemps. Alors le principe de l'émission, c'est bien sûr des dates clés de votre vie liées à Charles Aznavour. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 10 janvier 1978. C'est le soir de la rentrée d'Aznavour à l'Olympia.
Exactement, j'y étais.
Et voilà, exactement. Ouais. Vous y étiez, je crois, parce que votre père n'avait pas pu aller.
Mon père était bloqué dans un train, il y avait une grève. Et ma mère, qui était fan absolue, qui ratait pas un de ses concerts, m'y emmenait alors que j'étais pas forcément peut-être le... J'étais pas encore, j'avais pas l'oreille aguerrie pour connaître toutes les subtilités des textes d'Aznavour ou de ses musiques, mais j'ai eu un choc ce jour-là, un vrai choc.
Et en même temps, c'était votre premier Olympia, mais dans la salle.
Voilà, exactement.
Et vous avez dans votre répertoire une chanson qu'il a créée d'ailleurs à cet Olympia, qui s'appelle La Baraka.
La Baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La Baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. Baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Et nuit et jour quand tu es là, c'est notre amour, la baraka.
C'est fou parce que quand on vous écoute chanter, il y a des inflexions de Charles Aznavour.
Oui, j'ai toujours eu, j'ai jamais lutté contre ça. Charles m'avait dit que j'étais un crooner oriental. Alors j'avais ce petit vibrato qu'il tenait lui-même peut-être de piaf. C'est une façon de chanter comme ça, avec cette espèce d'inflexion sur les consonnes et de mordre dans les mots.
Alors, cette chanson date de 1976, donc création à cet Olympia. Et cet Olympia est particulier, c'est sa rentrée. Pour la première fois, il donne un récital complet, ce qui ne se faisait pas avant. Et il avait quand même créé l'événement 4 ans avant en donnant 2 récitals, un avec des nouvelles chansons et le mois suivant, un avec des anciennes chansons. Et les 2 étaient complets.
Ah bah voilà, non mais c'était, en plus je pense qu'il était vraiment à son sommet à cette époque.
Oui, oui, il a toujours 70. Été. C'était vraiment le début du sommet où voilà. Il avait conquis les États-Unis. Alors, La Baraka a une particularité, Dany Briand, c'est l'une des rares chansons joyeuses d'Aznavour.
Oui, c'est vrai, il n'y en a pas tant que ça. J'en connais 2-3, il y a Mes Emmerdes, je trouve que c'est une chanson très joyeuse, et La Baraka, et c'est une chanson où le texte est un peu moins profond, c'est plus sur la joie de vivre, et j'avais envie, en ces temps un peu contrastés et anxiogènes, de montrer que Charles Aznavour, c'est aussi la joie de vivre.
Oui, et La Baraka, vous la connaissiez depuis longtemps ?
La chanson, je la connais, mais La Baraka, je l'ai toujours eu, moi.
On le sait, et c'est pour ça qu'on vous accueille avec autant de bonheur et de joie. Alors, lorsque vous arrivez à l'Olympia comme spectateur, vous habitez Paris depuis peu de temps. Vous étiez d'abord en Tunisie, ensuite à Saint-Geneviève-des-Bois. Et vous n'imaginez pas un jour devenir chanteur, Dany Briand.
Non, surtout pas ce jour-là, quand j'ai vu ce que c'était qu'un artiste de musical, un artiste total, parce que j'étais subjugué par sa voix, ses musiques, ses mots, les éclairages, l'ambiance. Je ne pensais pas du tout que j'y serais. Mais j'ai eu un choc, un signe avant-coureur qu'un jour, peut-être, je ferais ça. Mais bon, je ne savais pas encore, ça s'est fait 6 ou 7 ans après.
Alors, l'Olympia est lié au début d'Aznavour, mais pour une autre raison. C'est un placeur de l'Olympia qui s'appelait Jacques Gims, qui a fait la musique de la première chanson d'Aznavour que personne ne connaît, qui s'appelait « Il y a des hiboux dans le beffroi ».
Ah oui, je connais ça. Voilà, moi, voilà. Je la connais, moi.
Et ben voilà, c'est un placeur de l'Olympia. D'accord. Alors, ça n'a pas eu un grand succès. La première chanson à l'Olympia qui a fait triompher Aznavour, c'est celle-ci.
Je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours.
C'est une chanson qui est chère à votre cœur et au cœur de votre père, Dany Briand.
Oui, mon père, je crois que c'était la chanson de déclaration d'amour qu'il faisait à ma mère sur ma vie. C'est magnifique comme texte Et même, de dire ça à une femme, c'est merveilleux. Quoique dans la chanson, en fait, elle se barre, je crois.
Mais en fait, je crois que c'est le moment où la première femme d'Aznavour se barrait.
Ah bah voilà. En tout cas, je crois que c'est avec ses chansons qu'il est devenu vedette.
Oui, alors il y a une histoire. En fait, il doit faire l'Olympia en vedette américaine. Ce qu'on appelait à l'époque vedette américaine, c'est juste avant la deuxième partie. Et Cocatrix lui dit, bon, vous avez du talent, mais il vous manque une grande chanson. Et Aznavour s'enferme dans la petite chambre qu'il habite à l'époque, rue Saint-Rustic à Montmartre. Et il fume paquet sur paquet, à l'époque il fumait, et il écrit Sur ma vie. D'accord. Et il entre en scène avec cette chanson, et c'est un triomphe. Et il y a une autre chanson à la fin du spectacle où il enlève ses chaussures, il est revenu saluer avec ses chaussures à la main. Ça a été son premier grand succès. Vous, je crois que vous l'avez découvert, je crois, avec un vinyle et avec cette chanson.
Il portait un feutre topé, il parlait par un onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pas.
Le feutre topé, Roger Aznavour.
C'est une chanson extraordinaire. Oui, parce qu'en fait, moi, quand j'avais 15-16 ans, j'étais fan de swing. Mais je connaissais le swing américain. Je connaissais Glenn Miller, je connaissais Sinatra. Et un jour, comme j'étais déjà collectionneur de disques, je tombe sur ça, sur ce titre-là, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de compil, il fallait les trouver. C'est un titre de 47 ou de 48, quoi.
48,
c'était
oui.
Même en 78. Oui, oui. Et donc je suis tombé dessus et je me suis dit mais c'est incroyable, on peut faire du swing en français parce que je trouve que ça swing terrible. En plus le texte il est très surréaliste, c'est très Saint-Germain, très Brésilien, donc c'est tout ce que j'aimais.
Voilà. Et Pierre Roche était à l'époque le co-interprète d'Aznavour, il a travaillé avec lui, d'ailleurs il a vécu au Canada ensuite avec une chanteuse qui s'appelait Aglaé, et il se trouve qu'il n'aurait jamais dû chanter. Parce qu'ils écrivaient des chansons ensemble au Club de la Chanson, qui était une association. Et un jour, ils sont dans les coulisses à Presles, près de Paris. Et la présentatrice se trompe et annonce Roche et Aznavour. Et ils sont obligés de rentrer sur scène et ils chantent du Trainet, l'héritage infernal. Mais complètement improvisé. Et c'est comme ça que le duo a commencé. Et on voit ce que ça
c'est
a donné.
Ça, les histoires de métier, c'est souvent des hasards, mais qui nous amènent en fait à ce qu'on est vraiment.
Alors, il y a des points communs, votre famille et celle de Charles Aznavour, Danny Briand, c'est que, je crois que vous avez un nom qui faisait du luth, et que le père de Charles Aznavour, Micha, était aussi un musicien.
Oui, ben le gène était dans la famille et mon oncle en fait animait des mariages, des fêtes, des communions et j'ai grandi au son de ce luth et du tambour. Mais c'était très orientalisant, j'ai grandi vraiment avec la musique orientale.
Voilà. Et le jazz, je crois que vous l'avez découvert vers 10 ans.
Vers 10 ans, 11 ans, j'ai acheté déjà des disques de Glenn Miller. Mes copains me prenaient pour un fou, mais j'avais ce goût pour ce rythme et cette musique.
Et la guitare, vous l'avez appris toute seule à 14 ans.
C'est mon grand-père donc, qui a vu que j'avais un goût pour la musique et qui m'a dit qu'est-ce qu'on va faire. Bon, on ne pouvait pas m'acheter un piano parce que ça coûtait cher. Et la guitare, c'est un instrument vraiment, vous savez, de gens, on peut l'emmener partout. Et le piano, c'est plutôt bourgeois. Donc la guitare, c'était parfois, on me l'a donné et j'ai appris tout seul, c'est vrai.
Et finalement, ça s'est très bien passé. Et vous avez débuté à l'ancienne, comme Aznavour qui faisait les cabarets, c'est-à-dire vous avez passé des années dans un club de jazz qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Les Trois Maillets d'Annie Briand.
C'est ça, j'y ai passé 5-6 ans et je crois que ça a été une époque formatrice. Et Je suis peut-être le dernier chanteur de cabaret, je crois.
Oui, et dans la lignée de ceux qui l'ont précédé. Et puis, c'est dans ces cabarets qu'un jour, Charles Aznavour a découvert quelqu'un, et c'est l'origine d'une chanson que vous interprétez sur votre album, en hommage à Aznavour, Danny Briand, c'est « Je me voyais déjà ».
Je me voyais déjà, en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà, adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà, cherchant dans ma liste, celle qui le soir pouvait par faveur se prendre à mon cou.
On connaît tous cette chanson.
C'est tout le monde connaît cette chanson, surtout les gens qui font nos métiers, parce qu'on a tous rêvé d'atteindre le sommet. Et je crois que ça raconte bien les tribulations d'un artiste. Bon, dans la chanson, je crois que l'artiste réussit pas, mais quand même à la fin, il y a la chanson qui retourne tout, parce qu'il dit un jour, je leur montrerai que j'ai du talent. Et je trouve que dans cette phrase, il y a toute la tenacité d'Aznavour et l'entêtement qu'on doit garder malgré les échecs et tout ça.
Oui, car il a connu beaucoup d'échecs avant de réussir.
Il paraît 17 ans de bide.
17 ans.
Je ne sais pas si c'est autant,
mais
je trouve que 17 ans, il faut vraiment être courageux.
Oui, mais il a tenu. Et un jour, il m'a dit, il y a quelques années, ils ont mis 70 ans à trouver que j'avais du talent.
Ah oui, c'est vrai. Il était un petit peu toujours amer qu'on ne le reconnaisse pas comme les grands, comme Brel, Ferré ou Brassens.
Il, oui, il, avait toujours... il a savouré les dernières années de sa vie où vraiment on,
et
l'a,
là,
reconnu.
On l'a reconnu.
Alors, je me voyais déjà, on pense que c'est son histoire, pas du tout. En fait, il m'a raconté un jour qu'il a observé un soir dans un cabaret de Bruxelles un artiste qui avait un costume bleu, qui assurait être une vedette, devenir une vedette, et ça marchait pas du tout. Et il était persuadé qu'un jour ça marcherait. Et c'est l'origine de la chanson Je me voyais déjà. Je sais pas si vous l'a raconté.
Oui, il l'a raconté, mais on pensait que c'était lui.
Non.
On pensait que c'était lui, mais finalement non, parce que je crois qu'à cette époque, il n'était pas vedette, mais je crois qu'il avait quand même du succès à droite à gauche. C'est les critiques qui le démolissaient, je crois.
Cette chanson a été en tête du hit parade qu'on appelait la Bourse des vedettes pendant 12 semaines. Donc voilà. C'était un bon début. Autre date importante pour vous autour de Charles Aznavour, Danny Briand, on en parle dans quelques instants, c'est le 13 juillet 1986. A tout de suite sur Sud Radio avec Danny Briand.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Danny Briand. Aujourd'hui, on évoque Charles Aznavour puisque vous sortez un album, Aznavour, la bohème, entre, c'est une des chansons de l'album, un hommage à Aznavour. Et une date importante pour vous, c'est le 13 juillet 1996. C'est un festival du jazz à Montreux. Et ce jour-là, vous chantez devant Aznavour, Danny Briand.
Exactement, j'étais venu pour chanter pour Charles Trenet.
Oui.
Je ne sais pas si vous y étiez.
Comme
vous étiez
là.
Voilà, vous étiez. Donc vous m'avez vu.
Au premier rang à côté d'Aznavour.
Donc vous m'avez vu.
Complètement.
Et c'était génial parce qu'on était, accompagné par l'orchestre de George Duke, qui est un des. C'est au niveau de Quincy Jones, quoi. Et moi j'avais chanté le piano de la plage et fidèle. Juste,
et le piano de la plage qu'on écoute.
Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa, qu'en fatigué. Le vieux piano de la plage possède un la qui n'est pas gay.
Et puis ainsi. Et c'est vrai que cette chanson, donc vous l'interprétez.
Donc je l'accompagne très swing. Hein. Et Aznavour est venu me voir après, et c'est la première fois que je le voyais. Et comme c'était mon maître, j'étais vraiment. Parce que je crois que le maître d'Aznavour, c'était Trenet.
Oui.
Voilà, on a tous des maîtres en fait. Et je trouve que j'adore ce côté de passation, de transmission. C'est très important.
Ouais, Trenet et Aznavour s'appelaient le roi et le prince entre eux. Ouais. Ils déjeunaient ensemble pour leurs anniversaires qui étaient à 4 jours de distance. Et c'est vrai que ce jour-là, on était venu avec Aznavour et Gérard Davoust, son éditeur, voir Trenet pour cet hommage. Il faisait la seconde partie. Et il y avait quelqu'un d'autre qui a été repéré ce soir-là. Je ne sais pas si vous en souvenez.
Linda Lemay.
Linda Lemay. Voilà. Car Linda Lemay venait du Québec. Elle a chanté Je veux pas de visite. Et puis Ma maison de Trenet. Et Charles Aznavour a dit à Gérard Davoust, allez la voir si elle est libre, car il est aussi éditeur. Et c'est comme ça que Linda Lemay a commencé. Et le directeur de la maison de disques qu'il avait enregistrée dit, mais vous êtes formidable, mais vous avez une maison de disques? Et elle répond, oui, la vôtre, il y a un an et demi que le disque est sorti, personne ne s'en occupe.
Ah oui, ouais. D'accord.
Et donc, heureusement, Aznavour a sauvé Linda Lemay, qui est une star aujourd'hui. Alors, c'est vrai que la complicité entre Aznavour et Trenet, elle existait depuis 1937, je ne sais pas si vous le savez. Aznavour est un jeune débutant qui se passe à l'Alcazar, l'ancien palace, dans une opérette marseillaise. Et il y a Trenet qui débarque en militaire pour poser ses chansons pour l'opérette. Et c'est comme ça qu'ils se sont vus pour la première fois. Ils n'ont jamais écrit une chanson ensemble. Et puis un jour de 95, ils ont décidé qu'il fallait changer et ils ont écrit ensemble très nettement.
Je me concentre, mais rien ne vient. Je suis mangé par la faim, car dans mon ventre. Désespoir, il n'y a pas même un café noir. J'ai beau chercher comment.
Cette chanson, donc, c'est paroles de Charles Aznavour, musique de Charles Trenet.
Ah bah c'est
vous
super.
Le saviez
ah bah ça swing, c'est déjà c'est pas mal. Hein.
Voilà.
Non, ça s'appelle Très nettement, non?
Très nettement, oui.
Ah bah, il reprend un peu les poncifs d'écriture de Charles Trenet.
C'est un hommage, oui.
Voilà, il y a un hommage, oui.
Et c'est vrai que cette génération, elle vous touche, parce que Aznavour, vous l'avez finalement toujours entendu, Danny Briand.
J'ai grandi avec, ça fait partie vraiment de ma Madeleine de Proust. Je crois que c'est dans mon inconscient et que c'est voilà, je pense que c'est quelqu'un de très important pour ma famille. C'était un repère, c'était quelqu'un près de qui on prenait des forces et il disait des choses qui nous touchaient. Voilà.
Mais souvent, vous étiez l'un des premiers fans d'Aznavour parce qu'à une époque, ça ne marchait pas. Et vous avez été l'un des rares, depuis le début, à suivre Aznavour avec votre famille, Danny Briand.
Oui, 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 j'ai toujours suivi. Je crois que c'est peut-être la condition d'émigré où sa musique, qui était un mélange de musique orientale, juive, arabe, il avait fait une synthèse. Enfin, j'ai l'impression qu'il a fait la synthèse de tous les folklores. Et cette musique nous touchait.
Alors, il a travaillé avec des hommes célèbres, mais aussi des femmes célèbres. Et il a lancé. Quelqu'un, grâce à lui, elle est devenue célèbre en écriture. C'est Françoise Dorin qui lui a écrit Que c'est triste Venise que vous avez dans cet album d'Annie Briand.
On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux et que le cœur se serre. En voyant les gondoles
abrite le bonheur des couples amoureux.
Il y a une seconde voix dans cette chanson, oui. C'est Katia.
C'est Katia, c'est la fille de Charles. Elle m'a fait cet immense cadeau de venir chanter sur le disque.
C'est qu'il y a une image de Katia à 3 ans dans la loge d'Aznavour qui chante à l'Olympia, devant la glace pour son père. Et ensuite, elle l'a toujours accompagnée en tournée avec Claude. Elle était à seconde choriste. Et ils ont fait une chanson ensemble, Je voyage, qu'elle a interprétée sur scène.
Je la connais, bien sûr.
Voilà. Et Katia est venue comment alors?
Ben, je l'ai rencontrée par hasard. Je la connaissais, hein. J'avais été à son mariage, je la voyais de temps en temps, mais je ne l'avais jamais rencontrée vraiment comme ça dans la rue. Et je l'ai rencontrée un jour dans la rue, il y a un an, au Café de Flore. J'étais en train de parler avec mon directeur artistique. Il me disait, qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois comme album? Je lui dis, écoute, je vais faire un album de latino, vu que la période est très anxiogène. Je crois que c'est une musique qui redonne l'énergie. Il m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas un tribut à Charles Aznavour? Je sais que c'est ton maître. Je lui dis, j'oserais jamais que des chansons de Charles. Et à ce moment-là, passe Katia Aznavour.
Alors qu'elle vit en Suisse,
au Café de Flore. Et on parle, on échange. Et elle me dit, salut Dani, j'ai écouté elle avait le portable de son père. J'ai vu que vous échangiez des chansons. Vous allez faire une chanson ensemble. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai. Et je lui ai dit, c'est fou que tu passes maintenant. Parce qu'on est en train de parler d'un projet avec mon directeur artistique. Un tribut à Aznavour. Elle me dit, c'est une super idée. Et appelle Jean Rachid. Et j'ai appelé tout le monde et ils étaient tous OK.
Oui, toute la famille a été OK. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses sur Aznavour. Mais vous êtes l'un des rares à avoir obtenu l'aval complet de la famille.
J'ai été adoubé.
Voilà. Alors, que c'est triste Venise, il y a une histoire. Françoise Dorin, totalement débutante, totalement inconnue, qui vit à l'époque avec Jean Poiret, dépose un jour ce texte aux éditions de Charles Aznavour. Il avait une maison d'édition, puis elle oublie. Aznavour, qui revient de tourner, il regarde ce texte, il le trouve très bien, il ne connaît pas l'auteur. Et il appelle Françoise Dorin pour lui dire « J'ai changé 2-3 mots et on fait la chanson ». Et c'est comme ça que Françoise Dorin a commencé une carrière, avec ensuite le théâtre et les romans. Donc il lui a porté bonheur avec cette chanson qui a été un immense succès.
Elle est sublime.
Et d'ailleurs, il faut savoir qu'elle a ensuite racheté les éditions Raoul Breton, Charles Aznavour, uniquement pour qu'elle ne soit pas vendue aux Américains. C'est-à-dire que les Américains étaient sur le coup, la marquise qui les procédait avait promis de leur vendre, et Aznavour est arrivé derrière et il a sauvé la dernière maison d'édition française, ce qui est important à mon avis, non ?
Bah, c'était un tel amoureux de la langue française, alors que c'est pas sa langue d'origine, hein, c'est ça qui est magnifique, je trouve. Oui. Ses parents ne parlaient pas le français, je crois. Et il avait un tel amour pour la langue, il disait que son pays, en fait, c'était la langue française. Donc ça ne m'étonne pas qu'il ait racheté la culture française.
Et puis il y a une chanson, on ne sait pas que les deux premiers vers sont d'Aznavour, c'est celle-ci.
Ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre devient s'écrouler.
Aznavour m'a raconté l'histoire. Il est face à Édith Piaf, il habite chez elle à l'époque, et il cherche une chanson. Il fait ses deux premiers vers, elle fait la suite de la chanson, et à la fin, Aznavour lui dit : elle est bien cette chanson ? Et elle répond : oui, elle est pas mal. Et Aznavour dit : ce sera un hymne à l'amour. Et Piaf répond : ce sera le titre. Et c'est comme ça que la chanson est née. Il n'a jamais pris le moindre centime sur cette chanson.
Bah écoutez, il aidait Édith Piaf. Hein. Mais cela dit, on reconnaît son style. Hein.
Et tout à fait. Ouais. Et puis, il y a une autre chanson qui est dans l'album qui est importante, c'est « Je t'attends ».
Je t'attends, j'attends l'air que je respire et le printemps. J'attends mes éclats de rire et mes 20 ans. Mes mères calmes. Et je t'attends.
Chanson qu'il a écrite avec un autre débutant, qui était chez Piaf aussi parce qu'il était le pianiste de Jacques Pils, c'est Gilbert Bécaud.
Gilbert Bécaud, ils ont fait plein de belles chansons ensemble.
Oui, hein. Ils ont fait une dizaine de chansons, Maquet, Maquet. Alors curieusement, ils se sont fâchés ensuite.
Ah bon ?
Oui, et à la fin de sa vie, Aznavour voulait refaire un album de ses chansons avec Bécaud, puis ça ne s'est pas fait, hélas.
Bah, c'est-à-dire qu'au début, c'est Bécaud qui est devenu une très grosse vedette.
Oui.
Aznavour était un peu dans l'ombre, et après, c'est Aznavour qui a tout dépassé. Donc je crois qu'il y a eu une petite rivalité quand même.
Voilà. Mais c'est vrai que chez Piaf, il se passait beaucoup de choses. C'est-à-dire que tous les soirs. C'était le centre. Ouais. Et Piaf a un jour téléphoné à Louis Amad pour dire, écoutez, j'ai un jeune auteur qui veut vous connaître, un jeune musicien, Gilbert Bécaud, et c'est comme ça que Bécaud a commencé. Elle a apporté le bonheur à Aznavour, qu'elle appelait le génie con, et à Bécaud et à d'autres.
Bah oui, mais je crois que ça a été son école d'être Édith Piaf. C'est une chance d'avoir été dans le sillage d'Édith Piaf pendant 8 ans, je crois.
Oui.
C'est une chance pour Aznavour. Je crois qu'il a tout vu, il a tout appris, il a tout compris, je crois.
Et il a tout compris, la preuve, avec ses chansons et cet album dont on va reparler dans quelques instants à travers une autre date, le 22 novembre 2017. A tout de suite sur Sud Radio avec Dany Briand.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Dany Briand. Un album Aznavour, avec un hommage à Charles Aznavour et les chansons qu'on écoute. Et puis une date importante, c'est le 22 novembre 2017. Vous allez ce jour-là en Provence, à Mouriès, dans la maison d'Aznavour, Dany Briand.
Oui, je suis allé. En fait, Charles avait fait aussi avant l'inauguration de sa place à Saint-Rémy-de-Provence.
Oui, en fait, c'était une petite place,
voilà.
Un passage autour d'un restaurant
qu'il aimait beaucoup,
chez Max, chez Marie et Laura. Et il venait déjeuner là tous les jours. Et un jour, le maire a décidé que ce serait la place Charles
Aznavour. Voilà, et j'étais à l'inauguration et je crois que c'est après que je suis allé dans sa maison. Et puis j'ai découvert son univers, sa table de billard avec tous les textes dessus, son bureau où il y avait des affiches, il y avait plein de livres, une vidéothèque. Enfin, j'ai vu ce que c'était que l'atelier d'un génie, quoi.
Oui, parce qu'il y avait un grand bureau avec des livres partout. Il collectionnait les éditions rares et il a déménagé, je crois, une vingtaine de fois. Oui. Cette maison, il y était depuis pendant 25 ans. Et puis, il a dit, je la vendrai un jour. Il l'a jamais vendu, il est resté. Parce que c'était la maison de son village. Mais il travaillait beaucoup. Il était à son bureau dès 8h du matin. Je ne sais pas si vous le savez.
Oui, moi, j'ai compris avec Aznavour qu'en fait, la chanson, c'était un métier. Parce qu'on pouvait croire pendant longtemps qu'être chanteur, ça durait 2 ans, 3 ans, on faisait un tube et puis on disparaissait, comme on nous l'a appris.
C'est comme ça aujourd'hui, parfois.
Et lui se levait à 6h30 et comme un artisan, comme un type qui faisait son bois, sa menuiserie, il allait faire de texte jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est un vrai métier, en fait, la chanson.
Oui, parce qu'il y avait un mini-studio au premier étage où il s'enfermait pour faire les musiques et un ordinateur où il écrivait des paroles jusqu'à ce que ce soit parfait.
Voilà. L'artisan.
Et ça, il vous l'a expliqué, il a dit une chanson est terminée quand je n'ai plus rien à raconter.
Oui, oui, bien sûr.
Et c'est ce que vous avez fait aussi, vous avez appris ça, Dany Briand?
Moi, j'ai appris qu'une chanson, elle est bonne, elle finit devant le public. Moi, je crois que c'est le public qui donne la caution à la chanson. Moi, je n'enregistre pas une chanson si je ne l'ai pas montrée à un public. Je crois qu'avant, c'était comme ça. Le disque n'existait pas et la chanson devait être forte sur scène. Et je crois que c'est là qu'on voit la force d'une chanson. Et c'est pour ça qu'on a créé beaucoup de standards dans les années 50, début 60, parce qu'après le disque est arrivé et le succès est venu par le matraquage. Mais une chanson, elle est bonne, si vous la chantez sur scène, elle est immédiate. C'est là qu'elle prend sa force.
Et vous avez souvent essayé des chansons que vous avez jetées ensuite parce qu'elle...
Oui, quand je vois qu'une chanson n'intéresse pas le public, je ne l'enregistre pas.
Alors, vous parliez justement de cette inauguration. Aznavour avait une particularité, il déjeunait mais il ne dînait pas. Je ne sais pas si vous le savez.
Il faisait attention à la ligne.
Voilà. Mais c'est vrai qu'un déjeuner avec lui, c'était des milliers d'anecdotes.
Oh, mais c'était la mémoire de la chanson. Puis nous, quand on est passionné de chansons, il nous raconte des histoires incroyables. Il m'a raconté en fait que Francis Blanche a refusé de lui écrire une chanson qu'il a écrite la sienne.
Oui.
C'est lui qui a commencé à écrire des textes parce que Francis Blanche, qui était un grand auteur, je crois, à l'époque, disait non, mais on ne va pas gagner d'argent avec vous parce qu'il n'était pas connu. Et il a commencé à écrire des chansons. Je crois que c'est une chanson de Georges Hulmer.
Oui.
Qui s'appelait, je ne sais plus.
Un monsieur attendait au Café du Palais.
Non, ça, ce n'est pas lui qui l'a écrite. Mais bon,
il adorait Georges Hulmer, de toute façon. Il considère que c'est le plus grand de la chanson française qu'on a oublié. Et c'est vrai que Francis Blanche a écrit 600 chansons, dont Étranger au paradis.
Histoire d'un amour.
Histoire d'un amour, que vous avez interprété.
Exactement.
Mais effectivement, il n'a pas cru en Aznavour. Non. Mais ils se sont réconciliés après. Sauf que Francis Blanche, quand il a entendu La Mama à la radio, a fait toutes les semaines un numéro en disant elle en finit pas de mourir, La Mama.
Ah oui, mais en plus, ce n'était pas lui qui l'avait écrite, c'était Robert Gall.
Oui, voilà. Alors, non seulement il ne dînait pas, mais le soir, Charles Aznavour avait chez lui un grand écran où il regardait
très cinéphile.
Oui, et surtout tous les journaux, car c'était un journaliste aussi.
Oui, il regardait les actualités. Il loupait jamais le 20h parce que je crois qu'il prenait là aussi matière pour ses chansons.
Voilà. Et la preuve, il y a un fait d'actualité de 1969 qui a fait une chanson très célèbre que vous reprenez dans cet album, Dany Briand, c'est Mourir d'aimer.
Mourir d'aimer.
Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne seront pas au courant, qui penseront que c'est Aznavour qui chante. Là, c'est flagrant, Dany Briand.
C'est vrai qu'il y a un mimétisme. Vous savez, moi, j'ai toujours considéré Aznavour comme mon père, donc que le fils soit influencé par le père, c'est normal. Mais j'ai vu le film récemment de Cayatte, et j'étais surpris qu'il ne soit pas générique, en fait.
Alors, en fait, il faut savoir que cette chanson, elle est née d'un fait d'actualité. Gabrielle Russet, une enseignante, avait eu une aventure avec un de ses élèves de 16 ans. Les parents se sont plaints, et elle s'est retrouvée en prison où elle s'est suicidée. Et le film Mourir d'aimer est sorti. Et Aznavour voit ce film, entend parler de cette histoire et va voir Kayat pour lui donner l'autorisation de faire la chanson. Et sur la pochette du disque, il y a « Avec l'autorisation d'André Kayat ». C'est l'inverse de ce qui se passe d'habitude. Et dans les versions étrangères, ces couplets ont été intégrés à une bande-son qui était justement latino avant, curieusement.
D'accord.
Alors, cette chanson, c'est la première chanson sociétale d'Aznavour. Vous aussi, vous aimez observer la société pour justement créer des chansons, Dany Briand ?
Bah, c'est Aznavour qui m'a mis, justement, quand je l'avais rencontré, je sortais de quelques succès un peu de chansons d'amour. Et justement, quand il est venu me voir dans cette loge là, à Montreux, il m'a dit, tu sais, Dany, si tu veux... Parce que lui, en fait, l'obsession d'Aznavour de ce métier, comme il avait eu 70 ans de carrière, il connaissait les écueils à éviter. Et pour lui, le problème, c'était pas de commencer dans la chanson. C'était de durer. Et il savait que le durer, c'était beaucoup plus dur que de commencer. Et il m'a dit, tu ne pourras pas durer si tu continues à faire que des chansons d'amour, des trucs légers, d'adolescents. Il faut s'intéresser à un moment des problèmes de société. Et c'est vrai que je l'ai écouté, j'ai fait un album comme ça qui est sorti après et qui a bien marché.
Voilà. Alors, vous avez aussi été en Arménie avec lui.
Oui, absolument.
Et comment ça s'est passé ? Comment ça s'est fait ?
J'étais très touché parce qu'il m'emmenait avec lui donc, en Arménie, sa terre. Je pense que toute la poésie, la créativité d'Aznavour, on la comprend parce qu'il vient du peuple arménien. C'est la voix du peuple arménien. Il nous a montré ce que c'était que la poésie arménienne. Même si c'est chanté en français, l'âme pour moi est arménienne. Et donc en allant sur la terre, j'ai senti toute cette âme, cette poésie. Et j'étais content qu'il m'emmène avec lui.
C'était un voyage comme ça
Non, c'était pas un voyage, c'était un voyage sérieux parce que c'est à partir de ce voyage, Chirac était du voyage. Vous y étiez aussi ?
Non, j'étais pas.
Voilà, Chirac était du voyage et c'est là que la France a reconnu le génocide arménien parce que tout le monde ne l'a pas reconnu encore.
On est bien d'accord. Et l'amour d'Aznavour pour l'Arménie, il s'est déclenché le 7 septembre 88. Ouais. Il y a un tremblement de terre, il y a 50 000 morts, dont beaucoup d'enfants. Et c'est là où il a créé Aznavour pour l'Arménie. Avant, il ne s'intéressait pas à cette terre. Il était allé, mais il n'y avait aucun intérêt. Et puis, un jour, on lui a attribué le titre de héros national. Et il était ambassadeur d'Arménie en Suisse. D'ailleurs, il y avait des plaques sur sa voiture, CD, corps diplomatique. Je ne sais pas si vous les avez vues.
Oui, oui. Et non, moi je pense qu'il s'est intéressé à l'Arménie parce qu'il y a une chanson que justement que j'avais découvert à l'Olympia en 70, c'était Ils sont tombés.
Absolument.
Donc c'est vrai. Maintenant je ne sais pas s'il était vraiment militant. Non. Mais en tout cas, ouais, voilà. Mais en tout cas, il aimait beaucoup la France. Et je crois qu'il était tiraillé entre la France et l'Arménie. Il disait toujours, je suis arménien et français, voilà.
Oui. Alors il a fait aussi beaucoup de cinéma et ça c'est un point commun que vous avez avec lui, la passion du cinéma. Et il avait des collections de DVD et son dernier achat peu avant de nous quitter, c'était 4 fauteuils de cinéma qu'il avait installé dans son salon pour voir des films. Et vous auriez aimé aussi être comédien, vous avez fait le cours Florent en plus.
Vous savez, les chanteurs, c'est toujours au début, j'ai remarqué dans la biographie des chanteurs, ils veulent toujours être comédiens au début. Même j'ai vu l'autre fois, j'ai lu la biographie de Michel Sardou, au départ, il voulait être comédien. Oui. Michel Fugain, il voulait être comédien. Aznavour, il veut être comédien. Donc je pense qu'en fait, les chanteurs veulent être comédiens parce que je pense que c'est le même métier. Même si on ne joue pas la comédie, je pense que quand on chante une chanson, on joue.
Et Aznavour a mélangé les deux dans plusieurs films, ouais, dont Un taxi pour Tobrouk, de Denis La Patellière, dialogue de Michel Audiard, où il chante La marche des anges.
La marche des anges. Pour voir la fin de mes souffrances, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance. Où tu demeures à m'espérer.
Cette chanson aussi est très célèbre et on ne sait pas toujours qu'elle vient de ce film, comme on ne sait pas qu'Un taxi pour Tobrouk en fait a été inspiré par une histoire vraie, deux soldats danois et allemands qui se seraient perdus au Groenland en 1943. Et ce film est parti de là.
Très bien.
Alors, il y a une autre chanson d'un film qui est très célèbre. Le film est moins connu, mais la chanson est très célèbre. Et vous l'avez reprise dans cet album. C'est « Et pourtant » par Dany Briand.
Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour.
Aussi, elle est importante pour vous, Dany Briand.
Oui, elle est importante comme toutes les autres. Je crois que c'est le film, c'est Chercher l'idole.
Exactement, film que tout le monde a oublié.
Moi, je l'ai vu et oui. Je crois que c'est un film. J'ai ma passion pour les années 60, je crois que c'est Netflix comme ça, comme Chercher l'idole. Il y a Franck Fernandel dedans.
Oui, alors il y a plein de gens. Alors, en fait, l'histoire, c'est Mylène de Mongeau qui doit aller à l'Élysée.
Un diamant.
Ouais, on lui a volé un diamant qu'elle recherche. Ouais. Et Aznavour est dans ce film. Et ce film est aujourd'hui un film culte au Japon et a lancé pratiquement la France au Japon parce qu'il y a une autre chanson dedans qui est archi connue, qui est la plus belle pour aller danser.
Bien sûr.
Et c'est vraiment ça a influencé l'industrie nippone en général. Alors, il a fait ses chansons pour ce film de Chercher l'idole avec Georges Garvarentz, qui était son beau-frère en plus. Il travaillait vraiment en famille, Aznavour.
Aznavour, il a toujours eu l'intelligence de s'entourer. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas qu'écrire ses chansons. Il allait prendre des textes de quelqu'un, de Jacques Plante, pour la Bohème. Il s'entourait de son frère pour des musiques. Ce qui fait qu'il a fait une carrière très longue parce que ça ne tournait pas en rond, son inspiration. Il prenait l'inspiration des autres.
Et il aidait les autres aussi. Et Johnny lui doit beaucoup, car il a rencontré Johnny dans un cimetière quand ils tournaient chacun un clip dans les années 60. Ils sont devenus copains et quand Johnny débutait, il l'a invité chez lui à Montfort-l'Amaury et il lui a appris à faire du cheval. Et c'est comme ça que Johnny a tourné ensuite le
D'où
film.
D'où viens-tu, Johnny ?
D'où viens-tu, Johnny ? Et puis, il y a une autre chanson de société dans votre album, d'Annie Briand, qui est très importante. C'est comme ils disent.
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarasate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue, deux canaris et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché.
Cette chanson aussi est surprenante parce qu'elle a fait scandale en 72 quand elle est sortie d'Annie Briand.
Aznavour, je crois qu'il bouleversait toujours les propositions. C'est quelqu'un qui voulait choquer un peu, mais je crois qu'il était très touché par la condition comme ça des homosexuels qui étaient souvent dans les chansons. Je trouve qu'on faisait des chansons pour se moquer.
Oui.
Souvent, je vois les chansons de Fernandel, des fois, des trucs comme ça. C'est trop drôle. Et lui, en fait, je crois qu'il était très touché et il avait envie de... Moi, c'est une chanson que je vois même d'un point plus large. C'est une chanson sur la solitude pour moi. C'est quelqu'un qui est seul.
Mais lorsqu'il a écrit cette chanson, il l'a fait entendre à ceux qui étaient ses copains, qui squattaient un peu sa maison quand il n'était pas là, qui étaient une bande d'homosexuels. Ils écoutent la chanson, ils sont un peu étonnés, car c'est avant la cage aux folles. Les cabarets de travestis comme Michou, ça commence à peine. Il dit, ça va aller bien ta chanson, mais qui va l'interpréter ? Il répond, moi. Grand silence, parce que personne n'imaginait qu'Aznavour pourrait chanter de tels couplets.
Oui, moi, comme je vous dis, parce que je pense qu'elle est plus large que ça. Et je crois que en fait, les homosexuels ont beaucoup apporté à l'art. Ils ont une sensibilité particulière et je crois qu'avec cette chanson, Aznavour leur a donné un. Je crois qu'elle a adouci un peu le regard de la société et je crois qu'elle a fait avancer les choses.
Voilà, et il a fait avancer les choses grâce à Andrushka, qui était un copain à lui, un peu chauffeur, qui était justement homosexuel et qui a servi de modèle à cette chanson. Voilà, vous savez tout.
Non, mais on apprend.
Et moi, je vais apprendre encore beaucoup de choses grâce à vous et grâce à cet album dont on va reparler dans quelques instants à travers une autre date, le 16 octobre 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Danny Briand.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Danny Briand. Donc, 16 octobre 2020, la sortie officielle de cet album dont nous parlons depuis le début, Aznavour, avec 11 chansons, avant une tournée dont on va reparler aussi. Un album hommage, 2 ans après sa disparition. Je crois que c'était quand même une obsession de toujours pour vous, Danny Briand.
C'est quelqu'un qui m'a donné envie de faire ce métier, qui a éveillé chez moi la vocation. Et je pense qu'à un moment, dans un parcours, c'est important de dire merci à son maître. Donc voilà, c'est une façon de dire merci. Et de dire aussi que j'étais un peu attristé qu'on n'en parle pas plus que ça d'Aznavour.
Oui,
on
très...
a beaucoup parlé de Johnny Hallyday. Et Aznavour, qui est le chanteur le plus connu au monde, je pense que c'est le meilleur parolier au monde. Je crois qu'il a été élu meilleur chanteur du siècle, même devant Presley et Bob Dylan par le Time Magazine. J'ai trouvé qu'on n'en faisait pas tant que ça en France.
Attendez, c'est pire que ça. On en a parlé lors de sa disparition pendant une semaine. Il y a eu les obsèques aux Invalides et après, rien du tout.
Voilà, même pas un show télé, rien.
Rien, mais ça, c'est la télévision française. C'est un autre problème. Alors, vous l'avez vu aussi enfant à la télé. Vous vous êtes dit tout de suite, il y a quelque chose de différent, Daniel Pellet.
Oui, je sentais qu'il ne faisait pas de la variété comme les autres. Parce que moi, j'ai grandi dans les 70 avec toute la variété française de Joe Dassin, Claude François, tous ces gens-là, Dalida, et je trouve que quand lui, il apparaissait, il y avait quelque chose de différent. Et en fait, j'ai compris, c'est que c'était un poète. C'est-à-dire qu'il faisait une œuvre. C'était pas que des chansons pour amuser les gens, pour divertir. Il créait une œuvre comme un écrivain. Et moi, je tiens Aznavour aussi grand qu'un Prévert, qu'un Molière. Et je crois que ses chansons sont des chefs-d'œuvre et l'œuvre va être éternelle. Oui. Ce qui n'est pas le cas peut-être toujours de la variété.
Oui, on est bien d'accord, surtout aujourd'hui. Alors, le problème, c'est qu'il a fallu choisir des chansons parmi tout le répertoire d'Aznavour. C'était pas facile. Il y a près de 1000 chansons, Denis Briand.
Exactement. Et puis, sur 1000 chansons, il y a 600 tubes. Hein, ouais. Parce que, je dirais même qu'il n'y a que des tubes. Moi. Il y a très peu de chansons mauvaises chez Aznavour.
Il n'y en a pas, non.
Bon, non, j'ai choisi les chansons d'abord qui avaient un texte. J'ai choisi par le texte. Et puis, au départ, je voulais faire un double album. Parce que je trouve que l'œuvre est tellement immense qu'il fallait au moins deux albums. J'avais fait un album latino et un album swing. Et puis, comme le confinement est arrivé en mars-avril, j'ai pu enregistrer que le latino et le swing, j'ai pas pu le faire.
Voilà, mais en même temps, le latino, c'est votre image de marque. Donc, adapter Aznavour en latino, d'abord, je pense qu'il aurait été très heureux de ça.
Il aimait bien, il paraît qu'on torde un peu ses chansons.
Oui, ouais.
C'est ce que m'a dit Gérard Daoust. Oui. Il m'a dit qu'il aurait bien aimé.
Oui, et puis il aimait non seulement ça, mais quand les Gypsy Kings venaient le voir, il adorait cette adaptation. Et le latino et Aznavour, ça marche très bien ensemble.
Ça marche très bien parce que le latino, c'est une musique qui a été faite par des esclaves, par des gens qui ont souffert. Et le fond est quand même mélancolique. Mais eux, si vous voulez, ils ont essayé d'apporter une joie de vivre dans leurs chansons. Mais quand on écoute un air latin, que ce soit à Cuba, à Porto Rico, c'est en même temps triste et gay. Regardez Compay Segundo, c'est triste et gay. Alors, comme les chansons d'Aznavour, je trouve qu'elles sont tristes et gays, je crois que ça colle bien avec les rythmes latins.
Alors, l'album s'ouvre sur une chanson et il y a aussi un clip de cette chanson, c'est La Bohème.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux.
La bohème en salsa, c'est pas un sacrilège, Danny Briand.
J'espère que les aficionados vont pas hurler. Parce qu'à la base, c'est une valse très lente.
Oui.
Et moi, j'avais envie de lui donner un peu de joie de vivre parce que je sens que c'est quand même la célébration de la jeunesse. C'est une chanson gay pour moi.
Mais comment choisir un rythme sur une chanson d'Aznavour, un rythme nouveau, Denis Briand ?
Bah ça, c'est... On a le chef-d'œuvre en face, on ne veut pas faire la même chose parce que ça supporterait la comparaison. Donc on essaye d'amener l'œuvre à soi tout en gardant l'âme. Donc c'est une question d'inspiration. Un jour, j'ai dit tiens, ça marcherait bien. J'ai essayé sur plusieurs rythmes. Hein. Et puis j'ai même essayé en tango à un moment. Et puis à un moment, je suis arrivé sur la salsa et puis en mambo, je trouvais que ça allait bien.
Ouais, et ça va très bien. Alors cette chanson, La Bohème, a une histoire incroyable. En fait, il écrit les chansons d'une opérette, Monsieur Carnaval, livrée de Frédéric Dard en 63 au Théâtre du Châtelet. Et sur scène, pendant la répétition, il est devant le piano et il fait une mélodie. Et Maurice Lehmann, qui est le directeur du Châtelet, metteur en scène du spectacle, à l'époque c'était des grandes comédies musicales, des grandes opérettes, il dit c'est pas mal cette musique, qu'est-ce que c'est ? Et c'est comme ça qu'est née La Bohème, que Georges Guettari a créé au départ dans cette opérette. Et ensuite, il en a fait un succès. Et Jacques Plante a fait des paroles en quelques minutes. Et c'est l'histoire d'Aznavour, puisqu'à Montmartre, il vivait vraiment, je ne sais pas si vous le savez, si vous la racontez.
Oui, sur son fils, me l'a dit. D'ailleurs, on a été à Montmartre avec son fils et on cherchait la rue. Je ne savais pas que c'était la rue rustique, Saint-Rustique.
Oui, oui.
Maintenant, je le sais.
Et il y avait des restaurants typiques à l'époque. Pour avoir un dîner gratuit, car il n'avait pas d'argent, il faisait la plonge à la fin de la soirée.
Non, il a commencé très bas. Alors.
Voilà, exactement. Et la bohème, elle est liée aussi à ce quartier de Saint-Germain-des-Prés que vous avez fréquenté toujours, Danny Briand.
Moi, je crois que j'ai vécu la bohème, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai vécu sans souci du lendemain, en sachant pas ce qu'on allait devenir, en essayant de vivre de l'art, de la chanson, du théâtre. Et on ne savait pas très bien quel était notre horizon, mais on était heureux parce qu'on était jeunes, parce qu'on avait l'amour, parce qu'on rencontrait des gens différents. Mais j'ai beaucoup aimé cette période.
Et c'est la période des cabarets, des Trois Maillets.
Des cabarets, des Trois Maillets, du théâtre. J'étais au cours Florent en même temps. Mais cet endroit, il se croisait plein de personnes. Il y avait Nina Simone qui passait à l'époque, oui. Qui était un peu elle n'était pas encore revenue. Et donc j'ai croisé plein d'artistes et ça a été une école extra.
Et c'est comme ça que Suzette est née un jour, parce qu'on vous a repéré au cours Florent.
Exactement.
Et Suzette, d'ailleurs, qu'il avait entendu Aznavour, et vous l'avez appris qu'après.
Oui, je ne savais pas s'il avait écouté mes chansons, tout ça. Il m'a dit qu'il surveillait quand même, et il a tenté de voir si ça allait tenir.
Oui.
Voilà, parce que c'est vrai que moi, dans les années 80, 90, souvent les chanteurs faisaient un tube puis ils disparaissaient. Donc il fallait savoir si le mec avait quelque chose dans le ventre. Donc il n'y a que le temps qu'il le dit, quoi.
Et il avait une liste de noms, il m'en parlait souvent et il m'avait parlé de vous en un temps où vous ne connaissiez pas. Donc il vous a suivi depuis le début, je vous confirme.
Vous voyez, ça me fait plaisir, ça.
Alors dans cet album d'Annie Briand, il y a d'autres chansons et une chanson dédiée à Katia dont on a parlé qui s'appelle « À ma fille ».
Toi, tu ne verras rien des choses de mon cœur. Tes yeux seront crevés de joie et de bonheur. Et j'aurais un rictus que tu ne connais pas, qui semble être un sourire ému, mais ne l'est pas. En taisant ma douleur à ton bras fièrement, je guiderai tes pas, quoi que j'en pense ou dise. Dans le recueillement d'une paisible église, pour aller te donner à l'homme de ton choix.
C'est tout simple, c'est l'histoire d'un père à sa fille.
Voilà, c'est ça.
Ça marche.
C'est universel, hein. Oui. C'est ça, la force d'Aznavour, c'est que les thèmes sont universels. Moi, j'ai une fille de 25 ans, c'est vrai que je déteste le mec qui va arriver. Et il écrit tellement bien, il est tiraillé. Lui qui ne sait rien du mal qu'on s'est donné. Lui qui n'a rien fait pour mûrir tes années. Mais je trouve dans ces deux vers, là, il y a tout le tiraillement du père.
Voilà. Et Aznavour a toujours été très attentif à ses enfants pour qu'ils ne manquent de rien. Sa première fille à Los Angeles est venue vivre à Bruyès ensuite. Et c'était une vraie famille. La famille, c'était essentiel pour lui.
Ça, c'est une leçon. Je pense que la famille, ça a été sa force. Et ça donne une leçon parce que moi aussi j'ai toujours voulu créer une famille parce que je voyais que ceux qui t'y tenaient dans ce métier, c'est ceux qui en avaient une.
Voilà. Et sa femme, il l'a rencontrée de façon particulière dans un cabaret en 64. Elle était là par hasard. Il a mis 2 ans à la séduire parce qu'elle avait peur.
Moi aussi, c'est fou parce que moi aussi j'ai mis 2 ans à séduire la même. Je dis pas, je me rappelle parce qu'elle voulait pas, parce qu'elle aimait pas les chanteurs. Elle avait peur. Ses parents lui avaient dit, mais c'est effrayant les chanteurs. J'ai mis 2 ans.
Voilà. Et elle venait de Suède et elle connaissait
pas.
Elle venait
de Belgique.
Voilà, c'est un peu le même pays. Et c'est fou d'ailleurs le nombre de gens qui aujourd'hui veulent reprendre Aznavour, car il y en a eu quelques-uns, mais sans l'avoir connu. Parce qu'Aznavour, faut vraiment le connaître et pour bien le chanter, à mon avis, d'Annie Briand.
Moi, je crois qu'il faut l'avoir dans les tripes. C'est d'abord, il faut avoir un style de voix. Je suis étonné qu'il y ait très peu de covers d'Aznavour, franchement. Oui. Il y en a eu dans les années 50, il donnait ses chansons, mais à partir du moment où il a été connu, je crois que, à part aux États-Unis, je ne crois pas qu'il y a très peu de covers en français. Je crois qu'il faut avoir son style de voix. Il faut être un peu dans ce côté un peu blues, un peu swing, un peu méditerranéen. Et là, ça passe. Mais sinon, quand on met une voix, par exemple, féminine, une voix trop aiguë, ça colle pas, ça ne sonne pas.
Enfin, tout le monde connaît Aznavour, ou presque. Et une anecdote que j'ai vécue, je ne sais pas si vous la connaissez, d'Annie Briand, un soir, on va avec lui à Mossane, à côté de Mouriès, voir les gypsies. Donc on passe tous les barrages, la police le salue, on arrive devant la grille, et il y a un Cerbère qui dit « Quel est votre nom ?»« Aznavour. » »« Ah bon, vous êtes sur la liste ?» Et voilà. Aznavour a dit « C'est extraordinaire, il y a au moins une personne au monde qui ne me connaît pas. » Et il a beaucoup ri.
Vous voyez, par exemple, les gypsies, ils ont la voix, je trouve, pour chanter du Aznavour.
Et ils le font d'ailleurs. Voilà. Il faut swinguer comme lui avec ce vibrato. Et alors, le grand moment aussi, un jour, c'est que vous avez chanté chez Michel Drucker, avec Aznavour, cette chanson.
Deux tziganes sans répit grattent leur guitare, raniment du fond des nuits toute ma mémoire. Sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse.
Cette chanson, un duo avec Aznavour, ça a dû être un grand moment d'Annie Briand.
C'était un des plus beaux moments de télévision parce que j'étais avec le maître assis en face de moi, avec Michel Drucker, qui est un maître aussi dans son domaine. Et voilà, il me reconnaissait parce qu'on a fait le duo ensemble. J'avais ma guitare et on chantait les deux guitares. Vous voyez, ça, c'est le genre de chanson que je n'ai pas pu faire, que j'aurais voulu faire dans le volume 2. Et là, on sent toute l'âme slave, voire tzigane de Charles.
Mais il y a une raison. En fait, cette chanson est inspirée d'une mélodie que jouait un vieux client qui venait chez son père quand il était enfant. Ce client ne payait jamais et il faisait de la musique pour payer son dîner. Et
en se souvenant... Ça existait encore à l'époque.
Mais oui, son le père n'avait pas le sens des affaires. Et il l'a remise à son répertoire pendant quelques années. Il l'a oubliée et ensuite il l'a retrouvée et elle est restée...
Elle faisait un gros succès en scène. Hein, voilà, bah,
exactement, mais c'était pas simple à chanter. Alors, le vrai problème aussi avec Aznavour, c'est qu'il faut toujours inventer des situations théâtrales. Et vous avez peut-être choisi ces chansons en fonction de l'histoire qu'elle raconte d'Annie Briand.
Bah, je pense que Aznavour, c'est une révélation sur scène parce que c'est le premier que j'ai vu qui jouait ses chansons. Bah, moi, Aznavour, c'est un acteur qui chante pour moi. Ce n'est pas un chanteur qui joue. C'est ouais. vraiment un acteur. Et donc, vous voyez tout. Quand il fait « Je me voyais déjà », vous voyez, il a toute une scénographie. Pour chaque chanson, il y avait une mise en scène. Et ça, c'est vraiment une école. Je crois que c'est peut-être il tient ça de Sinatra parce qu'il a dû voir les crooners dans les années 40-50. Il a vu beaucoup de choses aux États-Unis. Mais les Américains ont ça aussi. Ils jouent beaucoup leurs chansons.
Voilà. Une chanson qu'il jouait aussi sur scène et que vous chantez, c'est La Mama.
Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir la mama. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie, il y a même Giorgio le fils maudit, avec des présents plein les bras.
Ça, cette chanson est incontournable, Danny Brill.
Bah oui, puis comme vous dites de scène, ça fait penser à un film de Scorsese. Ça. C'est vraiment les films italiens, les films de Coppola. On se croirait dans Le Parrain, je trouve.
Oui. Et cette chanson, personne n'en voulait. Personne ne voulait faire la musique. Robert Gall lui a confié un jour les paroles. Il a fait la musique en quelques minutes. Et c'était une phase B d'un 45 tours. Et Barclay a senti qu'il y avait quelque chose. Il a dit, on va lancer cette chanson. Résultat, c'est 1 million d'exemplaires.
Voilà. Chantée par Ray Charles aussi, elle est superbe, la version de Ray Charles.
Oui, bien sûr, mais il y a eu plusieurs versions dans le monde entier. Et puis, il y a l'incontournable chanson qu'on apprend dans les écoles, qu'on fait dans les fêtes de village. Et bien sûr, elle est dans cet album d'Annie Briand, c'est Emmenez-moi.
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main.
Tout le monde la connaît, cette chanson.
Tout le monde la connaît, c'est un hymne contre la misère.
Oui.
Et je trouve qu'il a écrit la plus belle punchline qui existe dans la littérature. C'est « La misère serait moins pénible au soleil ». Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. C'est vrai, c'est ce qu'on pense tous. Hein.
Oui, et cette chanson, ouais. justement, elle est née lorsqu'il a observé une scène de misère. Il est en 67 sur le pont d'un ferry entre Hong Kong et Macao. Et il voit ces gens qui n'ont pas d'argent mais qui sourient à la vie.
Exactement. J'ai vu ça à Cuba, moi. Aussi, ça m'a rendu très philosophe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui donnent tout.
Voilà. Eh bien, merci de votre énergie. Vous revenez quand vous voulez sur Sud Radio, où nous parlons vrai.
Merci, Jacques.
Merci, Dany. Et c'est la fin des Clés d'une vie pour aujourd'hui. À bientôt. Et puis, surtout, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.